CKIA 88.3.
Salut, je suis J-Man.
Et moi, c'est Anne-Marie.
On t'invite à te joindre à nous le mercredi à midi pour l'émission Aujourd'hui à la Croix-Blanche.
À chaque semaine, on découvre un nouvel organisme communautaire de la région de Québec. On prend le temps de connaître son histoire, ses services, et on en profite pour avoir de belles discussions sur les enjeux des sociétés au cœur de leur mission.
Aujourd'hui à la Croix-Blanche, c'est tous les mercredis midi sur les ondes de CKIA 88.3 FM.
Pour connaître les enjeux et les avenues possibles en coopération internationale, pour entendre les acteurs régionaux, leurs actions, leurs préoccupations, écoutez Solidarité Québec-Monde tous les lundis de 17h à 18h sur les ondes de CKIA 88.3.
Bonjour, ici Aude Malaré et voici vos nouvelles du mercredi 20 avril. Jusqu'au 6 mai prochain, la maison Michel Sarrazin déploie sa grande campagne de recrutement de nouveaux bénévoles afin de consolider son équipe. Depuis le tout début, le bénévolat est au cœur de tous les services dispensés à Michel Sarrazin. L'organisation entière mise sur la participation de bénévoles généreux et dévoués pour offrir des soins et des services de grande qualité aux patients, à leurs proches et pour contribuer au bon fonctionnement interne. Afin de joindre l'équipe de bénévoles de la maison Michel Sarrazin ou pour avoir de l'information, rendez-vous au michel-sarrazin.ca. Le comité de démarrage de la coopérative d'habitation des Jardins d'Achimille recueille en ce moment des appuis pour son projet d'une trentaine de logements sur le terrain du bar Le Kirouac que la ville de Québec est en train d'acquérir pour le destiner à du logement social. Le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur accompagne d'ailleurs le comité dans ses démarches. Le souhait est que ce terrain serve à un projet mixte qui comporte des logements subventionnés, des logements adaptés, adaptables et soit porté par la communauté. Soulignant que l'appui des résidents et résidentes du quartier fait une grande différence, le comité de démarrage vous invite à ajouter votre nom au document d'appui de leur projet. Ce dernier est accessible via la page Facebook du CCCQSS. Ce soir, à 19h, se tiendra l'Assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Saint-Sauveur. La rencontre aura lieu en présence et se tiendra au centre communautaire Édouard Lavergne, au 390 rue Arago-Ouest. À l'ordre du jour, présentation du projet de corridor scolaire à l'école Sacré-Cœur par le service des transports et de la mobilité intelligente. Consigne pour l'élection des administrateurs, rapport annuel et état financier 2021 et élections. C'est hier qu'a été dévoilée la programmation du Carrefour international de théâtre. Cette année marque le retour des productions internationales. Une dizaine de spectacles en salle et 3 spectacles extérieurs ont été annoncés, sans compter le retour du fameux « Où tu vas, où tu dors » en marchant dans une nouvelle mouture. Cette 22e édition se tiendra du 26 mai au 11 juin dans différentes institutions théâtrales de Québec. La billetterie est ouverte, faites vite. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardin Perdu sur les ondes de CKIA et aussi sur Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et je vais être avec vous pendant la prochaine heure pour parler de jardinage. On a vu une semaine assez surprenante, non le moindre, de voir de la neige à Montréal, et là c'est bien quantité, si j'ai bien compris, hier, alors que Québec, il restait beaucoup de neige, mais il n'est pas tombé beaucoup hier. Je sais que chez moi, par contre, c'était une semaine de découverte, si on veut. Il y avait de neige partout, partout la semaine passée, quand j'ai fait l'émission. Il n'y avait pas un centimètre carré de dégagé. Blanc à la grandeur, tout. Et là, il y a plein de plaques où la neige est partie. Évidemment, chez moi, dès que la neige tombe, les fleurs sortent. Pouf! Il y a des fleurs partout. Des centaines, des milliers de fleurs. Et encore beaucoup de neige, mais les fleurs aussi. Je trouve ça fascinant. J'adore ces premières fleurs du printemps là, qui sortent dès que la neige fond. Ça donne tellement d'énergie, hein, les voir sortir. Et ces foisons de petits insectes, c'est comme des petites abeilles ou des petites guêpes. Il y a plusieurs sortes, en tout cas. Il y en a plein. Ça a l'air bien populaire auprès de ces insectes-là. Je crois que ce sont des insectes indigènes, donc ça doit aider sans doute la fleur indigène, les insectes indigènes. C'est vraiment incroyable. C'est beau, c'est coloré. Le seul problème, c'est que c'est en même temps mon plus grand espace de bulbes en fleurs actuellement, c'est aussi mon gazon. Fait que quand les petits-enfants viennent comme avant-hier, ils jouent dans le gazon puis ils crasent mes fleurs. Oh, c'est pas grave. Il y en aurait d'autres l'an prochain. Pas plus compliqué que ça. Et il y en a d'autres à venir. Alors ça, c'est toujours fascinant. Donc, je l'ai vu. J'ai passé l'hiver au printemps en quelques jours. Ça, c'est bien. Et aussi pour moi, chose incroyable, je suis sorti. Oui! Parce que c'est tout un histoire pour moi de sortir. Hein? J'ai besoin d'oxygène. Et en tout cas, j'ai été dans un centre jardin. J'étais chez Fleurie Jouvence. C'est le plus proche de chez moi, tout simplement. Mon fils m'a emmené. J'avais téléphoné. Ils avaient une chaise roulante. Wow. Et que j'avais quelqu'un, mon fils, pour me pousser. Et j'ai emmené mon oxygène, un bonbon d'oxygène. J'avais pour une heure et demie. Il fallait que je sois de retour, un peu comme les citrouilles dans l'histoire de... soit d'enfant. Il fallait que je sois de retour dans une heure et demie. Sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. En tout cas, chose certaine, je n'aurais jamais été capable de me remonter dans la maison après. En tout cas, je suis revenu à temps, juste comme il faut, et j'ai passé une bonne heure dans le centre jardin. On a fait le tour ensemble, des petits bulles de printemps, on a acheté quelques affaires. Lui avait besoin de semences, fait qu'un magasin des semences, il fait encore un beau choix. Moi, je voulais surtout voir les plantes intérieures, parce que les plantes que je cherche pour mon mur végétal, je n'ai pas trouvé, et je suis un peu déçu. J'ai trouvé une plante, mais j'en ai plusieurs autres, il n'y en avait pas, parce que je voulais. Ou encore, il y avait dans les gros pots très très chers. Pour comprendre quelque chose, quand je mets les plantes sur un mur végétal, je ne prends pas la grosse plante. Je prends une bouture. Fait que je ne vais pas acheter une grosse plante à 50$ parce que j'ai besoin d'une tige longue comme ça. Fait que j'ai laissé passer plusieurs plantes que j'aurais aimé avoir. Mais qui sait, peut-être une prochaine fois, je vais avoir la même plante sous forme de jeune plant. Et là, je pourrais en acheter. En tout cas, pour moi, c'est une sortie publique. J'en fais jamais. La dernière fois que je suis sorti avant ça, c'était me faire vacciner. C'est le genre de sortie que je fais d'habitude. Donc voilà, une sortie de jeune et paresseux, me faire pousser dans un centre jardin. Waouh, ça, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà. Voilà pour moi. Bien, j'espère que votre semaine était aussi bonne. Et je vais demander à Michel, maintenant, de me choisir une question pour lancer nos histoires d'aujourd'hui.
Juste un petit détail technique, Larry, avant de commencer. Si tu es capable d'approcher ton micro un peu de ta bouche, ça serait l'idéal. En attendant que tu t'installes comme ça, moi, je te pose la question de Danny Marin qui écrit « J'aurais l'occasion d'acheter un broyeur à feuilles sur pied. Celui-ci est muni d'un fil ressemblant à ceux des tailles bordures pour broyer les feuilles et le tout tombe dans un sac orange qu'on sert pour les feuilles. Que pensez-vous de son efficacité et sa durabilité? J'ai déjà essayé avec notre tondeuse, mais elle n'est pas conçue pour ça. Idem pour un aspirateur à feuilles avec des résultats mitigés qui demandent trop de manipulation à mon goût. »
OK. J'ai déjà eu un modèle très semblable qui c'est peut-être le même modèle. Je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était fragile. C'est ma critique principale. C'est que en s'attendant avec quelque chose comme ça, quelque chose qui va durer. C'était pas le cas. assez fragile, un peu trop simple peut-être. Pour déchiqueter des feuilles, c'était très bien. C'était pas utile du tout. Même pas des petites branches, vraiment. Il fallait que ce soit des feuilles ou des petites choses comme ça. Des semences, peut-être. Des semences d'érable, des choses semblables. Ça, ça marchait très bien pour ça. Mais c'était plus... Ça n'a pas duré 2 ans, je pense. Moi, j'ai plein, bon, plein de prix. J'ai acheté la fin de la saison bon marché, mais ça n'a pas duré non plus. Donc, je vais être déçu. Par contre, il est très difficile de trouver des broyeurs de feuilles qui ne coûtent pas une fortune. Donc, au moins, il y a ça. C'est pas cher, ça. Sur le modèle que j'ai, en tout cas, était pas cher. Tondeuse, c'est ce que j'utilise actuellement, surtout la tondeuse. Il faut passer des fois 2 fois pour les grosses feuilles. Mais moi, je n'ai pas de grosses feuilles chez moi, donc ça, c'est pas un problème. Aspirateur de feuilles, pas ça dépend. Certains modèles sont très bons, moins, d'autres moins. Donc, il y a moyen de trouver une façon de s'organiser. Voilà.
Maintenant, Mélanie Brière. Si j'ai parti mes canards trop tôt et qu'ils touchent déjà au plafond, et elle dit j'exagère à peine, qu'arriverait-il si je coupais la tête? Vont-ils repousser normalement? Je prévois les mettre dehors en juin, en zone 4. Merci.
OK. C'est compliqué un peu. Il faut penser quelque chose. Les canards. On a donc dans la terre un rhizome sur lequel une ou plusieurs tiges poussent. Chaque tige fleurit, provient d'une seule tige florale. Il n'y a pas de toit. Il peut avoir une division en haut, faire deux tiges secondaires, mais ça part d'en bas. Donc, quand on coupe un canard, si on coupe trop bas, supposons que le canard est de haut, et vous coupez ici. Et si la fleur commence à monter, puis est rendue là, et vous coupez, il n'y aurait pas de fleur. Par contre, si vous coupez la tête, la plante va pouvoir faire une autre plante à côté qui va fleurir. Donc, à vous de voir, ce serait peut-être utile de couper pour forcer la plante à faire des rejets qui vont être une taille plus raisonnable au moment de la sortie. Et il faut juste se rappeler ça. Et c'est une tige qui cache, qui est dans le fond la tige de canard, est vide. C'est quand il y a une tige florale dedans que ça devient plein. Et si vous coupez au mauvais moment, ça coupe les fleurs en même temps. Et ça ne fait qu'une seule tige, par tige.
Marc-Olivier Grenier, pardon. Cette année, je retire un petit entrée asphaltée pour convertir l'espace en potager. Je pensais avoir creusé 16-18 pouces. Ma question, est-ce que je dois remplir tout le volume avec de la terre à potager ou je peux faire un mélange de terre moins cher?
Vous pouvez mettre un mélange de terre moins cher. Par contre, il faut vous assurer quand même que c'est pas une terre qui va se compacter. C'est votre sol le plus important. Parce que peut-être des fois, des bas de gamme sont des terres plus glaiseuses et ça, vous n'en voulez pas comme fond. Vous voulez quand même une terre qui va bien se drainer. Donc, informez-vous ou demandez au marchand de vous montrer une terre de peut-être moins de qualité, meilleur prix, mais qui ne se compacterait pas avec le temps. Parce que dans le fond, ce qu'il faut penser, c'est que le gros des racines des plantes, c'est dans les premiers, disons, premiers 20 cm, peut-être premiers 30 au maximum. Habituellement, les racines qui descendent plus loin sont plus pour aller chercher l'eau et d'autres choses. Ou pour, souvent, des racines plus longues, c'est pas s'ancrer, hein? C'est plus ça, un travail un peu différent. Donc, les minéraux, c'est surtout vers le haut qu'on veut. C'est ça que quand on applique un engrais, aussi bien de mettre sur la surface, pas l'enfouir. C'est mieux que ce soit sur la surface. C'est comme ça que les plantes réagissent. Les engrais, dans le monde végétal, descendent d'en haut vers le bas. Comme ça. Donc, il faut placer les choses pour que l'engrais descende comme ça. Voilà.
Jeannette Ouellette. Mes boutures de coléus prises en septembre ont plutôt bien poussé dans la maison pendant l'hiver. Est-il préférable d'en refaire des boutures pour plate-bande ou alors d'acclimater mes plants et les transplanter tels quels au jardin?
À vous de décider. Moi, je fais des deux, dans le fond. Je garde le plant que j'appelle maintenant la plante mère, le plant que je rentre à l'automne, qui est une bouture à l'automne, mais qui est devenue la plante mère. Et rendu au mois de mars, avril, je prends des boutures, de boutures, et je fais l'eau plante avec ça. Et je garde la base qui fait de nouvelles tiges, et donc, j'ai plein de coléus pour le jardin. Donc, moi, je rebouture beaucoup de soi-disant annuel au mois de mars, avril, mai, où on voit pas le Jordan cet hiver.
Elle précise un peu plus loin dans le chat qu'elle est de Trois-Rivières en zone 4B. Est-ce que j'imagine qu'il y a peut-être une incidence ou pas du tout?
Non, dans ce cas-là, non, puisque c'est à l'intérieur que fait ça et que tout le monde va sortir ses plans pour l'été. Donc ça, c'est comme normal. Il y a une spéciale là.
Mélanie Brière revient avec une autre question. Je veux mettre en place un jardin en pleine terre. Comme vous le suggérez, je vais mettre 30 cm de bonne terre, mais j'hésite entre un grand rectangle sans contour de bois avec allée et quatre rectangles de 4 pieds par 8 pieds entourés de bois. Pouvez-vous expliquer les avantages et désavantages de l'un et de l'autre, entretien, production, etc.? Merci d'avance.
D'imaginer ça, donc 30 cm directement sans rectangle, sans contour, ou avec allée et rectangle. OK. L'un des avantages du rectangle de bois, c'est que la terre reste là. Ça ne disparaîtra pas. Alors qu'il va faire une certaine érosion sur les côtés quand on ne fait pas ça. L'avantage de faire des rectangles de 8 pieds, de, non, 4, 8 pieds, non, ça, la longueur, c'est moins d'importance. C'est une largeur de 4 pieds, de 120 cm. C'est que c'est une bonne longueur pour avoir accès à tout. À tout, à tout, à tout. Donc, on peut être d'un bord ou de l'autre. Et à cette largeur-là, il y a moyen d'avoir mettre le même outil au centre de chaque côté. Donc, ça, c'est drôlement pratique, comme on leur dit, d'avoir accès les deux côtés. Tandis que c'est l'ancienne technique, que j'appelle ancienne, où on avait une large plate d'arbre, terre surlevée sans doute, mais large plate d'arbre, où on avait des allées entre chaque. Chaque rang servait d'allée. Car on gaspille beaucoup d'espace pour le passage des pieds. Donc, par exemple, si je prends un exemple, on allait dire aux gens, plantez vos tomates à, je pense que c'est tomates, petite taille, relativement petite taille, 45 cm. Bon. 45 cm entre les plants, puis entre les rangs, on allait dire, et 1,5 m entre les rangs. Wow! On paie l'équivalent d'un rang de tomates avec ça. Donc, avec la méthode des plates-bandes de 4 pieds larges, surlevé ou non, vous avez accès partout. Donc, c'est ça l'avantage. Le bois, c'est surtout pour tenir. C'est des gens qui vont trouver ça faire plus propre. Mais vous savez, quand même, moi, j'ai souvent fait des plates-bandes au potager où il y avait de la terre à cet angle-là, à peu près, c'est quoi, à peu près 75 degrés. Et ça tenait quand même assez bien. Mais c'est surtout ça, la différence. Ça permet de c'est largeur. Faire une plate-bande, partager 8 pieds de large, là, vous êtes obligé d'avoir des allées d'excès. C'est mieux de voir les pieds. C'est toujours mieux de garder les pieds en dehors du potager. De jamais y poser les pieds. Ce serait l'idéal. Et ça, on peut le faire avec 4 rectangles de 4 par 8 ou 1,20 m par de 40 cm. Ça va vous faire voir 2 de chaque côté et 2 à l'extrémité de l'autre. Et vous aurez accès à tout, tout, tout ça sans jamais avoir mis le pied dedans.
On a maintenant une question de Thérèse Foran. Je suis tellement heureuse pour toi que tu aies pu aller avec ton admirable fils dans un centre jardin. Quel bonheur. En fait, ce n'était pas une question, c'est un commentaire.
Oh, ben moi, c'est fait des. Est-ce que je peux dire que ça fait des mois que je rêve de ça? C'est drôle de le dire, mais pour moi, sortir. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Donc oui, j'étais super content d'avoir pu faire ça. Extraordinaire.
Anne-Marie Gélina, sur un sachet de semences d'œillets d'Inde où on indique qu'il faut « endurcir » entre guillemets les plants avant de les transplanter au jardin. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, oui, « endurcir », ça veut dire « acclimater » ou « endurcir », les deux se disent. Je pense que c'est même correct. Français, jardin, ça va. L'idée est que quand vous avez des semis dans la maison, ou même des boutures dans la maison, ces plantes-là qu'on entretient, qui poussent, sont très bien, mais elles n'ont pas été exposées aux vrais éléments. Elles ont vécu toute leur vie protégées. Quand on les sort, tout d'un coup, oups, ça change la donne. Et il faut les acclimater. de préférence. Donc, qu'est-ce qui change? D'abord, elles n'ont probablement pas été exposées au vent. Pour avoir tendance à casser un peu. Donc, on va souvent les mettre à l'abri du vent pendant quelques jours, dans un endroit à l'extérieur à l'abri du vent. Il y aura quand même du vent, assez pour que la plante commence à s'habituer. Et les plantes physiquement changent parce qu'elles sont exposées au vent. Ce n'est pas juste imaginaire. Ça change physiquement la plante. Elle va commencer à développer des tiges plus épaisses. Donc, le fait d'être brassé, ça fait plaisir. Donc, après deux, trois jours, avec un tout petit peu de vent, un peu plus de vent, et ça va encore endurcir. Donc, on endurcit au vent. Ce n'est un. Température, ça aussi, les plantes s'habituent un peu à la température. Mais là, par contre, nous vivons dans un climat limite, quoi. Que voulez-vous? C'est un climat limite. Beaucoup plus au nord que ça, on ne jardine pas. Hein. On n'est pas dans la limite. Il ne faut quand même pas exposer les plantes à des froids importants. Donc, souvent, quand on acclimate ou qu'on endurcit, on va quand même rentrer les plantes le soir si on lance du foie. Et pour chaque plante, c'est ce qu'est le foie, ça varie. Si j'ai fait des semis, disons, de chou-kale dans la maison, je peux les laisser dehors à 7-8 degrés, pas de problème. Mais si j'ai fait des semis de tomates, alors à 7-8 degrés, je les rentre. Parce que la tomate ne tolère pas le foie aussi bien que le chou-kale. Donc, on a un jeu à faire, mais ça. Température aussi, il faut penser, mais c'est surtout le soleil. Les plantes qui ont vécu toute leur vie, soit sous une lampe fluorescente ou LED d'elle, n'ont jamais été vraiment en contact avec les rayons ultraviolets, au moins pas assez pour changer grand-chose. Et pourtant, même chez l'être humain, qu'est-ce qui fait brûler notre peau? C'est pas les rayons bleus et rouges, c'est les ultraviolets. Puis ces plantes-là, donc, n'ont pas de protection contre le soleil. Et la même que nous. Donc, nous, on va faire quoi? On va mettre une crème pour sortir, puis on va s'acclimater. On fait la même chose. On sort un petit peu, puis on rentre. Le lendemain, un peu plus. C'est la même chose pour la plante. Sauf là, il faut mettre la plante dans un endroit ombragé au début. Quand même, il y a des rayons de soleil qui passent. Ça va commencer à l'acclimater. Au bout de deux, trois jours, quatre jours, on le met dans un endroit un peu plus ensoleillé. Mais pas au soleil, encore la plante s'acclimate à ça, et physiquement, le feuille va s'épaissir. Ça va être remarquable pour certaines plantes. D'autres plantes, on ne voit pas tellement, mais ça s'épaissit aussi. Et après quelques temps, pendant 4-5 jours, on va mettre au soleil, et là, nos plantes vont acclimater. Donc, endurcir veut dire acclimater, habituer des plantes aux conditions d'extérieur.
Manon Frère a deux questions. Je commence par la première. Elle dit, entre autres, qu'elle avait posé sa question trop tard la semaine passée. Donc, on n'a pas pu lui y répondre. Alors, la voici, cette question qu'elle a posée la semaine dernière. J'ai acheté des clématites en sac dans un magasin de très grande surface. Comment dois-je procéder? Est-ce que je les plante maintenant à l'intérieur ou l'extérieur? Je demeure à Montréal.
OK. Merci beaucoup pour la précision quant à l'endroit. Oh, mon Dieu, c'est plus complexe. Ça dépend dans quel état sont les plantes. Si on voit qu'il y a une certaine croissance et que ça ne bouge pas, c'est encore par là, puis moi, je le laisserai dans le sac, dans un endroit frais, si vous enlevez, pour empêcher la plante de pousser plus. Par contre, si vous voyez que ça pousse et que c'est verdi, là, on ne peut plus le rater pour l'emporter dans une pot dans ce cas-là. Mais ça fait un peu plus de choc parce que on a dû transporter deux fois le fil, une première fois en pot pour l'intérieur, puis une deuxième fois quand on le plante à l'extérieur. Et ça, c'est un peu un choc pour une plante ici. Donc, j'aurais tendance à préférer le laisser en sac dans un endroit frais et pas de soleil jusqu'au... Pour une clématite, on pourrait logiquement penser le planter avant la fin de mai, au moins quand on a un printemps très, très froid. À Montréal, on devrait être capable de planter avant ça. Et quitte à couvrir pour la nuit si jamais il lance très fort.
L'autre question de Manon Bernier, elle dit « Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait avec le compost maison l'hiver. Peut-on continuer avec les déchets maison ou on oublie l'hiver?
Bon, » ce qui arrive, c'est que souvent, c'est l'accès. On n'a pas l'accès au composteur. Et de façon, à cause du froid, après quelques temps, ça arrête net. Il n'y a plus de décomposition. vous pouvez continuer à mettre des choses dedans si vous avez accès. Souvent, ce que les gens vont faire plutôt, c'est qu'ils vont prendre des déchets de cuisine, les mettre dans un autre contenant et mettre ce contenant-là à l'extérieur. Ou ça peut geler, ça ne change rien. Rendu au printemps, quand la neige part, les sols dégèlent, ils vont pouvoir vider cet autre contenant dans le composteur. Et ça va tranquillement reprendre. Et c'est sûr que dans un composteur qui est exposé au soleil, et en général à cette saison-ci, à cause du fait que le soleil chauffe le contenant, ça va dégeler un peu plus tôt que la terre autour et ça va tranquillement commencer à se décomposer. Mais vous allez voir quand même que le compostage se fait surtout quand la terre s'est réchauffée vraiment.
Jérôme Lacaire-Lemay. Mes tomates ont commencé à avoir les feuilles qui s'enroulent. J'ai de la terre neuve Pro-Mix avec mycorhize, de l'éclairage artificiel et il ne manque pas d'eau. Il n'y a pas de plantes dans cette pièce. Est-ce que je pourrais y avoir, est-ce qu'il pourrait y avoir un virus dans les semences neuves?
OK. Vous savez, les virus, c'est très le mot que je cherche. Ça peut se glisser n'importe où, un virus. Mais les chances qu'il y en ait dans les semences de tomates fraîchement achetées, c'est pas mal minime. L'effet s'enroule un peu. J'aurais plutôt tendance à croire qu'il y a quelque chose dans les conditions qui n'est pas parfait. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Pas nécessairement non plus. Une plante n'a pas besoin d'être belle pour produire. J'aurais espérance que la plante se corrige lorsqu'elle va être dehors. Peut-être que je ne sais pas où vous êtes, mais peut-être que vous le pouvez le mettre dehors un petit peu, au moment où il fait plus chaud, pour l'acclimater un petit peu. Et ce changement pourrait stimuler une autre réaction. Autre possibilité, ce serait juste d'arroser avec un engrais complet. Pas un engrais style 15-15-15, qui est surtout des minéraux, trois minéraux, mais un engrais qui contient tous les oligo-éléments, comme un engrais à base de poisson ou un engrais à base d'algues. Ces engrais-là, ou engrais de poule, ça contient beaucoup de oligo-éléments ou de petits minéraux. Parce que si votre plante manque juste une touche de, disons, molybdène ou brome ou chlore, ça peut faire des choses semblables. Donc, pour éviter une carence, une petite application d'un engrais complet pour les plantes aidées.
Marie-Claude Laure a plutôt un commentaire dans ce cas-ci. Elle dit « Je vous aime beaucoup, Larry. Merci pour ce foisonnement d'enseignement judicieux et sympa. Bon pour notre réflexion, notre intelligence et notre joie. Merci, merci, merci. »
Oh, mais merci, c'est gentil aussi. J'aime ça, les commentaires comme ça. Ça me fait.
Clémentine Clémentinise. Mes bleuets en pot commencent à faire des bourgeons. Devrais-je ajouter compost, engrais? Si oui, quand et lesquels? Merci.
OK. Donc, ça commence à pousser tout simplement. C'est ce que vous voulez dire. C'est normal, c'est la saison. Vous avez peut-être une région un peu plus chaude que la mienne, tout simplement. Mais oui, ça commence à pousser. On peut mettre un engrais. Dès qu'on voit que ça pousse, on peut mettre un engrais. Quand même, quand tu quel engrais mettre ou quel compost mettre, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que vous avez déjà un engrais chez vous? Mettez ça. C'est sûr qu'on sait que les bleuets aiment un sol acide. Donc, il faut mettre un compost, peut-être voir si c'est un compost acheté, s'ils ont traité ou pas, pour réduire l'acidité. Parce que sinon, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est... En tout cas, moi, je mettez ce que vous voulez essentiellement. La croyance qu'il y a un engrais spécifique pour telle plante, c'est monté par les vendeurs d'engrais. Moi, je me débrouille avec un engrais tout usage. Ça ne fait pas toutes les plantes. C'est bien parfait, ça.
José Perrault. Moi, je les avais partis à l'intérieur et plantés à l'extérieur quand les risques de gel ont été écartés. Achetés chez Costco l'an dernier, hâte de voir si elles ont passé l'hiver. De ce que je comprends, c'est que c'est une réponse à quelqu'un d'autre qui avait répondu, questionné un peu plus haut peut-être.
Ouais, ça se peut.
Donc, On va y aller avec Linda Boisvert. Dois-je laisser les feuilles mortes que j'ai hachées l'automne dernier et mis sur mes vivaces comme compost?
Non, vous pouvez laisser là, il n'y a pas de problème. Ça va se décomposer. On peut les utiliser comme paillis essentiellement. Dans un cas comme ça, il faut une couche de paillis en surface. Sauf que ça se décompose très vite. Les feuilles jetées, là, ça ne dure pas. Mais c'est pas grave, ça enrichit le sol. C'est juste pour dire que faut pas être surpris si vous voyez dans 3 semaines qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça. C'est le plus vite les décompositions, dans le fond, dans le jardin, c'est les feuilles déchiquetées, mais ça enrichit le sol, donc c'est bien.
Manon Gamelin, j'ai des semis d'aclépiades annuelles dans une cassette de styromousse. Ils ont 2 pouces de haut et 4 vraies feuilles. C'est tout. Il n'y a pas de...
Il doit avoir une question plus loin.
Peut-être un peu plus bas, on ira quand on sera rendu là. Donc, Alain Boulay, quelle hauteur doivent avoir mes semis de tomates pour les mettre en pot individuel?
Écoutez, quand ils sont trop jeunes, il ne faut pas. Moi, j'essaie de calculer plutôt le nombre de feuilles. Dès qu'il y a 4 feuilles au moins, et ça vient assez vite, 4 feuilles, c'est correct, on peut le faire. Moi, je viserais plutôt 6, mais 4, ça suffit. Et on peut les mettre dans un pot individuel. Pas de problème.
Joanne Parent, que pensez-vous des analyses de sol annuelles? Est-ce nécessaire?
Oh, probablement pas. La terre ne change pas vite. Vraiment pas vite. Tout ce qu'on pourrait vouloir savoir, comme le pH, etc., ça bouge lentement. C'est une longue période de temps. Normalement, je dis, personnellement, je n'aurais jamais dit une analyse tous les ans. J'aurais dit une analyse aux 4 ou 5 ans. Ça, c'est beaucoup plus logique. Et encore plus important de faire 4 ou 5 ans quand on a des plantes qui demandent un plus de suivi, comme un gazon. Mais pour les plantes-bandes, moi, je dirais 4-5 ans, c'est quand même bien. L'important de faire une analyse, c'est qu'on peut suivre ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui va, on va le savoir. Parce que même changer, supposons que l'analyse dit votre sol est trop acide, les changements qu'on met pour le faire, ça prend du temps avant de se réaliser. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer. Donc, vraiment, c'est bon pour faire des analyses. Aux 4 ou 5 ans, faites les changements recommandés et 4 ou 5 ans plus tard, analysez de nouveau. Ce que je faisais, j'ai comme réduit le nombre de types de jardins chez nous. Là, je suis rendu essentiellement qu'avec potager et plate-bande. Mais quand j'avais plusieurs types de jardins, j'analysais un des types de jardins par année. Et comme j'en ai 4-5, ben, automatiquement, ça fait une rotation, nécessairement. Voilà.
Joanne Demers, pardon. Est-ce qu'il est trop tard pour partir des semis de tomates et poivrons?
Ça dépend où vous êtes. Moi, je dirais non pour les tomates, parce que certains. Les tomates, normalement, calculez 5 à 6 semaines avant que vous pensiez pouvoir les repiquer. Donc, on est à peu près ça pour Montréal. Les poivrons risquent un peu en retard à Montréal, mais c'est pas le fin du monde. Parce que eux, on va donner plutôt 7-8 semaines. Mais c'est pas le fin du monde. Vous savez, être un peu en retard, ça fait juste une récolte. Vous aurez une belle récolte pareil. Pas trop tôt, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas bon. Mais moi, je ne vois pas de problème. Et d'ailleurs, si vous êtes dans ma région, moi, je n'ai pas encore semé tomates. Là. C'est sans rien le moment pour le faire. Et c'est pas besoin de courir. On peut faire ça quand on a du temps. Ouais.
Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, Manon Gamelin a reposé sa question plus clairement. J'ai des semis d'aclépiades annuelles. Ils ont 4 vraies feuilles et ont 2 pouces de haut et espacé de 1,5 pouces dans une cassette en styromousse. Devrais-je les mettre en pot ou les laisser dans la cassette?
Ben moi, je dirais que ça va vu qu'on a encore facilement un mois et demi avant de les planter, probablement chez vous, parce que c'est un asclepiade à l'huile. C'est une plante tropicale, donc c'est sûr qu'on ne sortirait pas quand il fait frais. Vu que c'est la situation, ça serait peut-être mieux de mettre dans un pot, peut-être, pas dans un énorme pot, mais dans un pot peut-être de 10 cm, 12 cm. Et pour lui donner un peu plus de place pour les racines, parce que la plante va croître, on ne veut pas. Et on ne veut pas qu'elle soit trop étroite pendant ce temps-là.
Agnès Morin-Chartrand. J'ai reçu de mon cousin des graines de gloire du matin de la saison 2008. Il les a gardées au sous-sol. Sont-elles encore... Attends, ça va... Donc, sont-elles encore viables? Comment est-ce que je m'y prends pour les faire fleurir? Est-ce qu'il y a des... on va y aller avec celle-là, puis il y a d'autres sous-questions, là, mais... Donc, comment... en fait, savoir s'ils sont encore viables, puis comment elle s'y prend pour les faire fleurir?
OK. Donc, pour savoir s'ils sont viables, ça vaut la peine de faire un test. Je présume que vous en avez amplement. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de gaspiller 2-3 graines pour savoir. Faites tremper quelques graines. C'est une graine pour le bois du matin. C'est quand même bon de les faire tremper 24 heures avant de les planter, pour les ramollir. Les graines sont dures comme la pierre, pour les ramollir un peu. Et vous voyez, quand vous les faites tremper, ça ronfle. C'est beau que les faites. Bon, vous les semez, vous faites tremper, et là, vous les mettez sur un morceau de papier cuisine, essuie-tout, humide, et vous recouvrez avec un autre morceau, vous pliez, et vous insérez dans un sac de plastique. Mettez-le dans un endroit chaud, un peu éclairé, et calculez, est-ce que ça germe? Est-ce que vous voyez assez rapidement dans la semaine et demie au maximum, est-ce que vous voyez des débuts de racines? Si oui, et que chaque graine germe, ou presque, c'est excellent. Continuez, plantez. Si par contre, et seulement, bon, si vous avez semé 10, et seulement 2 qui lèvent, c'est pas bon signe. Et les plantes risquent d'être faibles, parce que ça veut dire que le pouvoir germinatif a baissé. Donc là, je vais mettre de côté. Pour les faire fleurir, la gloire du matin, c'est pas facile. On peut le semer directement dehors, si on veut, et ça va le repérer. Ça ne fleurit pas au début de l'été, c'est la deuxième moitié de l'été. Et la plante a besoin de soleil, on le plante en pleine terre ou dans un gros contenant, et vous faites grimper sur quelque chose. Les fleurs sont ouvertes le matin seulement, d'où le nom gloire du matin.
Bon, tu as répondu, je pense, à la suite de la question. Est-ce que, donc, je continue. Est-ce que je les commence dans la maison si j'attends que le sol se réchauffe et je les mets directement dans le sol le long de ma clôture? Elle dit qu'elle demeure à Ottawa.
OK, Ottawa, oui. OK, de toute façon, on peut faire l'un ou l'autre. Vous avez le choix avec une gloire du matin. C'est un plant qu'on peut partir dans la maison ou démarrer dans la maison ou à l'extérieur. Si vous le démarrez dans la maison, utilisez un pot de tourbe, un pot perméable, je devrais dire, parce que de nos jours, ils ne sont pas toujours faits de tourbe. Vous allez faire d'autres choses. Mais un pot à paroi perméable. De cette façon-là, vous pouvez planter au complet le pot dans le sol et les racines vont sortir. Parce que ce n'est pas une plante qui aime qu'on dérange les racines. Donc, on ne le planterait pas dans un plateau mélangé avec d'autres. Ça ne serait pas une bonne chose pour cette plante-là. Ce serait mieux d'avoir son pot individuel. Et là, on peut le repiquer à l'extérieur, l'acclimater, bien sûr, et le repiquer lorsque la température va être vraiment estivale. Sinon, vous faites tremper les graines la nuit et vous sèmez dès que les températures commencent à se réchauffer. Je dois dire très honnêtement, je suis toujours semé mes graines du matin directement dehors parce que ça se prêtait à ça. C'est une plante facile. Et je ne me suis jamais donné la peine de partir plus tôt. Mais on peut le faire.
Maintenant, Frève, pourquoi les pleurs d'agrumes ne vont pas au compost? Parce qu'on en consomme beaucoup.
Parce que c'est une fausse information. C'est bien plate, ces histoires-là. Les gens qui sont faut pas. Non. Les pleurs d'agrumes, ça se décompose comme n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. S'il y avait que ça, ça va peut-être ralentir le compostage. Ce serait bien d'avoir d'autres choses. Pour mélanger avec les matières brunes. Il n'y a aucun problème avec les pelures d'agrumes. Le raisonnement derrière ça, c'est des personnes qui ont créé cette règle-là, c'est que les pelures d'agrumes ont la réputation d'éloigner certaines indésirables. Et pour ça, ils s'imaginent que c'est pas bon, que c'est dangereux. Mais non, pas du tout. Et en plus, quand ça se décompose, calculer, c'est plus une pilule d'agrumes, c'est un problème de décomposition. Peu importe l'élément qui pourrait peut-être éloigner un insecte, ça se décompose tout de suite. Il n'y a pas de risque. Il ne faut pas se gêner pour mettre ça dans le compost. Encore une fois, je ne dis pas qu'on n'a que ça. Il faudra mélanger d'autres choses. Mais on peut mettre ça dans le compost, pas de problème.
Manon Gamelin, est-ce que je peux mettre de l'engrais hydrosoluble tout usage dans mes semis de tomates ou de l'engrais naturel?
Vous décidez. Hein? Engrais, c'est l'engrais. Certaines personnes veulent avoir... je m'excuse. Veulent avoir l'engrais hydrosoluble. Parce qu'un engrais, même le contraste que vous faites, là, engrais naturel, bio et hydrosoluble, c'est pas une contradiction. Il y a des engrais qui sont biosolubles, qui sont naturels, et donc qui sont chimiques. Donc, aucun problème. Vous savez que les plantes, moi je dis aux gens, les plantes ne savent pas lire les étiquettes d'engrais. Si le minéral est là, la plante va aller le chercher. Donc, peu importe son origine, la plante va en profiter. En question de vous, vous faites comme vous voulez. Les engrais, c'est super facile. Prenez l'engrais, diluez de façon correcte, et utilisez-la. Utilisez-la. C'est pas plus compliqué que ça.
Manon Gamelin, est-ce que je peux mettre de... Okay, non, ça, c'est ce que je viens de demander. Elle a une autre question. J'ai parti mes bulbes d'Accidentera en pot. Devrais-je couvrir le pot?
Je ne vois pas ce que ça veut dire pour couvrir le pot. Couvre de terreau. Non, de toute façon, calculer un Accidentera, c'est comme un glaïeul. C'est un proche parent. D'ailleurs, son vrai nom botanique maintenant, c'est Gladiolus. C'est un glaïeul, en fait. Fait que vous le plantez en pot. Le but, c'est de gagner du temps sur la saison parce que l'Accidentera fleurit tardivement vers la fin de l'été. Ça pourrait vous donner un peu d'avance. Mais couvre le pot, non, vous tâtez comme n'importe quel autre bulbe que vous avez planté dans la maison, simplement. Et vous la repiquerez dehors quand il n'y aurait plus de vestiges.
Doris Saint-Hilaire-Bergeron, que pensez-vous du trèfle nain dans la pelouse?
OK. Ça, c'est toute une histoire, mais on voit qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Le trèfle nain est une variante du trèfle blanc ordinaire. C'est une variété qui, lorsqu'on le tend, surtout si on le tend une première fois, les prochaines feuilles qui vont sortir vont être beaucoup plus petites que le normal. C'est curieux, c'est que c'était trouvé comme ça, à différents endroits en Europe, d'où vient le trèfle blanc. On croit que c'est le trèfle blanc qui s'acclimate à la tonte, tout simplement. Et comme ça, comme elle fait des feuilles plus petites, qui restent sous la tondeuse, elle profite davantage. Donc, c'est une trèfle mieux adaptée au gazon, en fait. C'est de là à calculer pour vous si ça vaut la peine. Ça coûte, pour l'instant, ça coûte assez cher. Je présume, à un moment donné, ça va arrêter. Mais nous sommes devant une situation où la plante est tellement populaire, je ne parle pas juste au Québec, là, à travers le monde. Cette plante-là est désirée. Beaucoup de gens veulent l'avoir. Et donc, ça fait augmenter le prix de façon artificielle. À un moment donné, le nombre de producteurs va augmenter. Et la popularité va arrêter de baisser et le prix va devenir plus normal. Donc, c'est plus une question de prix que d'autres choses. Il y a quand même le fait que ça fleurit un peu moins que le trèfle ordinaire. Donc, si votre but était d'avoir des belles fleurs blanches dans le gazon, ce n'est peut-être pas la bonne variété. Et si c'est pour avoir un gazon compact qui a besoin d'une tonte, oui, ça pourrait être trop moins intéressé. Parce que le trèfle, son nom de variété, c'est Pipolina. Ce qui veut dire tout petit en italien. Pipolina est comme un bon produit pour le gazon, pour enrichir le gazon et le rendre plus dense. Ouais.
La prochaine question est de Agnès Morin-Chartrand. J'ai des agapanthes qui ont poussé dans un pot. Qu'est-ce que je fais?
Pas de façon. Il faut les garder en pot. Hein? Agapanthe, c'est juste un petit pot, mais un plus gros pot. L'agapanthe est vendu, j'en ai vu d'ailleurs lorsque j'ai fait ma sortie, hein, la grosse sortie. Mais c'est vendu comme bulbe d'été, ce qui est quand même vrai un peu, mais ce n'est pas une plante à planter en pleine terre. En Californie, oui, mais pas au Québec. Il faut vraiment qu'elle rentre l'hiver, parce qu'elle ne fleurit pas la première année. C'est les années suivantes qu'elle va fleurir. Donc, l'idéal, c'est de mettre dans une pot et sortir le pot, laisser pousser l'or tout l'été, et vous rentrez à l'automne. Vous pouvez même le rentrer tard à l'automne. C'est une plante qui n'est pas tropicale, la guirlande. Elle est de climat tempéré, pas aussi froid que le nôtre, mais tempéré. Donc, la plante va profiter d'un automne à l'automne à l'extérieur. Elle va aimer ça, ça va répliquer un peu son hiver. Et sans avoir d'ailleurs, sans une période de fraîcheur durant des périodes hivernales, ça ne fleurit pas. Il faut cette période de fraîcheur. Donc, gardez votre plante en pot. Vous allez voir, ça va grossir. C'est des longues feuilles qui ressemblent à des feuilles un peu d'amaryllis, si on veut. Et avec le temps, normalement, la deuxième année, ça commence à fleurir. Mais la première année, je n'ai jamais entendu parler que ça a déjà fleuri la première année. Mais on ne dit pas ça sur l'étiquette. Hein? Ça, à vous de découvrir.
Dorothée, beau séjour. Le printemps dernier, j'ai commandé des pivoines Ito que j'ai reçues tard à l'automne. Je vis en zone 5B. Raison des problèmes de santé, je ne pouvais pas les installer en terre. Je les ai mises en pot et enfouies dans mon potager. Elles commencent à pousser. Est-ce mieux d'attendre à l'automne pour les planter? Merci.
Pas du tout. Plantez-les. Plantez-les dès que le sol est dégelé. Ce n'est pas des plantes qui craignent le froid. De toute façon, plantez-les. C'est déjà assez. Elle va passer l'hiver au sec comme ça. Ça va beaucoup mieux en pleine terre. Et attendez pas l'automne. Ça n'a pas besoin de planter l'automne d'ailleurs. Ça aurait pu être planté. On va en vendre d'autres au printemps. Donc, non, ce n'est pas un problème. Plantez-les quand vous pourrez. Et faites bientôt, c'est un 5B. Il y a des bonnes chances que ce soit dans les. Bientôt, dès que certaines années, là, le sol se réchauffe à cette date. Peut-être pas 2022, là. Mais dans deux, trois semaines seulement. Vous serez capable de les planter.
Lise Doyon, j'ai reçu une hydrangée rose. Pourrais-je le planter au jardin au printemps? Si oui, quand?
OK. L'hydrangée rose, qui est la même chose que le bleu, qui est la même chose parce que ça change de couleur, ça dépend des cultivars. On voit des rouges, on voit des pourpres aussi. Cette hydrangée-là, on appelle ça Hortensia en France, hydrangée à grande feuille. C'est le haut qu'on devrait utiliser parce que c'est vraiment cette espèce-là. Hydrangée macrophylla, hydrangée à grande feuille. C'est un arbuste pas adapté à notre climat. On nous le vend comme plante cadeau, comme ça, à Pâques ou Fête des Mères, quelque chose comme ça. C'est des belles fleurs extraordinaires. C'est vraiment beau. Des boules de couleur extraordinaires. Mais quand on l'aura piqué en plein terre, elle n'aime pas notre climat. C'est pas qu'elle n'aime pas le froid du tout, elle a besoin de froid. Elle a besoin d'un hiver assez froid d'ailleurs, et pas de grand froid. Et c'est là où ça ne marche pas. Quand vous allez en Normandie, en Bretagne, en France, vous en voyez partout, tout le monde en a, et ça pousse tout seul. Mais quel est le climat qu'ils ont? Ils sont en zone 8, ils ont un climat où il fait froid, mais pas très froid l'hiver, où il ne fait jamais très chaud l'été, et donc c'est vraiment le ville pour cette plante-là. Nous, on arrive ici. Qu'est-ce qui arrive ici? Un été chaud, c'est pas l'idéal. La plante aimerait mieux avoir un été fraîche. Et un hiver super froid, que la plante n'aime pas. Donc, la seule chose logique à faire avec ça, quand on reçoit un cadeau, c'est de planter un plantaire. Parce que vous ne serez pas capable de forcer un deuxième floraison. La question de comment le faire refleurir, c'est une autre histoire. Mais juste pour résumer, si vous voulez vraiment essayer de faire refleurir, couvrez-la à l'automne. Tenez épaisse, tant de feuilles. Moi, ce que je fais, je me fais une cage en broche et je remplis ça d'une 40-45 cm de feuilles mortes pour isoler. Et je le laisse longtemps. Parce que l'un des petits trucs avec cette plante-là, c'est quand on la plante en pleine terre, elle va souvent survivre à l'hiver. Elle est assez rustique pour ça. C'est que par la suite, Comment ça pousse? Les nouvelles pousses vont geler. Il n'y a pas de floraison. Donc, il faut le garder en dormance plus longtemps. Donc, moi, je laisse ma tour, si on veut, de feuilles mortes longtemps, jusqu'au début de juin. Et là, je l'enlève. Quand je l'enlève, on voit qu'il commence à pousser dans mes feuilles mortes. Et quand je l'enlève, ça verdit dans 2-3 jours. Et là, c'est parti pour une floraison. Mais personnellement, j'ai jugé ça trop de travail. J'ai arrêté de faire ça.
On a maintenant une question de Catherine Duchesne. J'ai deux hibiscus tressés. Il y en a une dont certains troncs sont morts. Je pense que je devrais enlever les troncs morts et tenter de replanter la partie toujours vivante. Que me conseillez-vous? Aussi, est-ce que l'engrais d'algues convient aux hibiscus ou serais-je mieux du 20-20-20? Merci.
Bon, écoutez, enlever les parties mortes, c'est certain. Sans doute, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des conditions. Hein? Il y a plus qu'un plant dans un pot. Il n'y avait pas les conditions qu'il fallait pour avoir beaucoup de monde qui partage un même pot. Et les plantes moins fortes sont décédées, tout simplement. Enlevez-les. S'il faut beaucoup déranger les racines, je couperai juste les tiges. Ça pourrait rester dans le même pot. Mais couper les branches mortes, c'est sûr que ça ne vous donne pas grand-chose. Quant aux engrais, vous savez que les engrais, tant que vous donnez de l'engrais, ce n'est pas d'importance. Qu'est-ce que vous faites? Fait que mettez l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et ça va d'ailleurs bien aller. Encore, les plantes ne savent pas les étiquettes. Un engrais d'algues, c'est très bien. Du 20-20-20, c'est bien aussi. Ça ne change pas grand-chose pour la plante. Tant qu'il y a des minéraux, les plantes vont en profiter.
Lise Doyon. Mes carrés de jardin surélevés sont au sol en terre orientée sud. Combien de temps puis-je gagner au printemps avec les tomates et les piments?
OK. Donc, j'ai compris que ça en sert. OK. Orienté sud, c'est sûr que ça chauffe beaucoup plus tôt au printemps. Et de là, elle reste chaud la nuit. Et c'est au sol. Ça devrait être protégé contre le pied des vents. Je prends mal, vous gagnerez une semaine ou deux. Pas beaucoup plus que ça. Il y a toujours le problème des nuits fraîches et que vous perdez votre chaleur la nuit. Il faut quand même... Les tomates, idéalement, vont toujours tomber de 15 degrés Celsius. Mais 12, c'est acceptable. Moi, je n'aurais pas que ça descende de ça et que ça ralentit la production. Est-ce que vous avez accès à un thermomètre qui peut dire quel température qui est fait par la nuit? Il existe des thermomètres électroniques qui vont vous dire la température minimum que la plante a subie. Et avec ça, vous pouvez suivre. Vous pouvez déjà le mettre et voir qu'est-ce qui se passe chaque nuit. Comme ça, vous commencerez à voir, OK, là, c'est rendu que j'arrive à 12 la nuit. Là, vous êtes pas mal près du moment où vous pouvez le repiquer. Et ça va être probablement une semaine ou deux avant la deuxième gel.
Je ne sais pas si c'est la même question, mais Joanne Parent demande les semences de gloire du matin qui sont tombées au sol l'an passé ont passé l'hiver, protégées sous 4 pieds de neige.
Oh, ça va germer probablement. Les gloires du matin, je ne dis pas que ça devient envahissante, ce n'est pas le cas. Mais se ressemer, si elles peuvent être enterrées un peu, elles vont germer probablement et pousser. C'est une plante très facile à ce niveau-là, oui.
Manon Frève, j'ai remarqué que dans la pelouse, chez mon garçon, il y avait beaucoup de pissenlits et de prêles. Son terrain semble avoir une terre argileuse et compacte. Est-ce que la cendre pourrait améliorer la pelouse et détruire les mauvaises herbes?
OK, la cendre ne détruira pas les mauvaises herbes. Et ça ne change rien à ce niveau-là. Ce que ça peut aider, si le sol est acide, et ça se peut que ce soit un problème, ça pourrait donner la chance aux graminées qui vont mieux pousser. Et si les graminées poussent mieux, il y a moins de chances pour les pissenlits et les prêles. Mais il faut faire une analyse de sol pour voir. Vous dites qu'il y a un problème à la grandeur. Moi, je ferai tout de suite une analyse de sol. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Et une fois que vous savez le problème, parce que quand vous faites une analyse de sol, vous prenez les échantillons, vous l'emmenez au centre jardin qui l'envoie au laboratoire et vous recevez un rapport. Ça vous dit qu'est-ce que c'est les problèmes et quoi faire. Vous n'avez qu'à suivre parce que je ne peux pas prévoir exactement qu'est-ce qu'il vous dit le rapport. Le rapport va être différent pour chaque personne qui l'envoie, qui demande une analyse. Mais si vous suivez ça, ça va améliorer les conditions. Vos graminées vont être plus fortes. Et dans ce cas-là, les autres vont avoir moins de force. Parce que les graminées, c'est quand même une plante assez envahissante et assez dominante. Et que vous donnez la chance aux graminées, les autres vont baisser un peu, au moins.
Possiblement la dernière question. André Simard, bonjour, M. Hobson. Dans votre livre sur les semis, vous ne privilégiez pas l'utilisation des pastilles de tourbe pour certaines plantes. Quelles plantes faut-il éviter avec ce moyen?
Ben, écoutez, les pastilles de tourbe, ce que je trouve, c'est qu'elles retiennent trop d'humidité. Vous savez qu'on a des terreaux excellents maintenant. Quand j'étais petit, on n'avait pas de bons terreaux. Et ces pastilles de tourbe étaient extraordinaires comparativement à ce qu'on avait. Mais là, c'est rendu le contraire. La qualité n'a pas changé et donc on a encore ce même problème de trop d'humidité. Donc moi, je dirais, essayez n'importe quoi, presque, mais faites juste un peu plus attention avec l'arrosage. Comme ça a tendance à retenir l'eau plus qu'une autre, il faut quasiment laisser aller presque jusqu'au point où ça va commencer à s'assécher une touche. Par contre, je dis ça, j'ai entendu dire, j'ai parlé à des fabricants de Jiffy, qu'ils ont changé leur, ou qu'ils changent leur produit, que l'an prochain, ça va être autre chose. Et ça va être beaucoup plus léger. Donc, il y a un changement bientôt pour ces pots-là. Quelque chose qui va être plus léger et parfois plus commode.
Dernière question, très rapidement, pour la réponse, s'il te plaît. J'ai rentré un Brugmansia l'automne dernier. Quand pourrais-je sortir le pot dehors? Il perd de plus en plus de feuilles.
Oui, ben, regardez, vous pouvez toujours le mettre devant une fenêtre ensoleillée maintenant. Commencez à l'arroser davantage. Quand il va commencer à faire de nouvelles feuilles, même mettre un peu d'engrais, mais on donne l'engrais en récompense. Fait qu'il ne mettez pas d'engrais tant que la plante ne commence pas à faire ce que vous voulez. Et quand la plante, quand la température sera acceptable, ce n'est pas une plante qui aime le froid du tout. Et quand vous êtes rendu avec des nuits, des jours de 15 degrés et plus, vous pouvez la sortir là, le jour et le rentrer le soir. Et quelques jours plus tard, quand vous êtes rendu 15 degrés la nuit, vous serez plus prêt pour laisser dehors en permanence. Et là, la plante pourrait passer l'été dehors. Une fois que vous avez vraiment des nuits assez chaudes, la plante va être mieux dehors. Et voilà, avec ça, on arrive à la fin de l'émission. Je remercie tout le monde d'avoir été aujourd'hui, d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci beaucoup aussi à Michel Bédard pour son travail derrière la scène. Pose des questions. Et tout ce qui est de technique, c'est lui. Merci beaucoup aussi à l'équipe de Sekaya qui est là aussi, qui participe. Et moi-même, Larry Hodgson. Ben, écoutez, on va tous être là la semaine prochaine, mercredi à 10h. Donc, bon jardinage tout le monde. Et on va espérer qu'on puisse sortir dehors sans manteau cette semaine. Ce serait bien.
Bye-bye, Larry.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Mercredi 17h à CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume. Musique, entrevue avec des grands noms, des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88.3 et CKIAFM.org. On vous y attend.
J'ai cotisé pendant des années. Comment ça, j'ai pas le droit au chômage? L'assurance-emploi te ferme la porte au nez. Action chômage de Québec défend tes droits. Visite le actionchômage.org ou abonne-toi à notre page Facebook, facebook.com/actionchômage.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes.